franceinter.fr.
Bonjour à tous. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui avec les médias francophones publics. Les rédactions de la RTBF, de la RSR, de Radio-Canada, de RFI et de France Inter ont choisi un thème qui, dans leurs pays respectifs, suscite le débat. Les 5 reportages que vous allez entendre font le point sur la gestation pour autrui, la GPA. Entre l'autorisation sud-africaine et l'interdiction suisse ou française, on trouve le vide belge et les variations canadiennes. Les règles diffèrent donc grandement d'un pays à l'autre, des réalités que les reporters des MFP vont nous faire découvrir. Direction Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est l'un des rares pays dans le monde qui a légiféré sur le sujet. La GPA y est autorisée et encadrée depuis 2006. Les couples homo ou hétérosexuels demandeurs d'une GPA doivent faire valider leur requête par la justice. Il ne doit y avoir aucune transaction financière entre les parents et la mère porteuse. Malgré cette clarification légale, la GPA reste pourtant un sujet tabou pour les Sud-Africains. Reportage d'Alexandra Branjon de RFI.
Il n'y a pas d'attachement. Même si je porte l'enfant, je le sens bouger, je le vois à l'échographie, ça ne me perturbe pas.
Nathalie a 35 ans et elle est mère porteuse.
Quand il sort, il va dans les bras de quelqu'un d'autre et si je ne le vois plus, ce n'est pas grave. Ça peut sembler très froid, très dur, mais je sais dès le départ que je porte un enfant pour aider des gens à fonder une famille. Je ne suis que leur utérus extérieur, leur incubateur.
Uterus or incubator.
Loin des clichés de la jeune mère célibataire et désargentée, elle travaille un petit garçon de 7 ans et a choisi d'aider des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Elle a déjà porté 6 bébés pour autrui.
Ma mère avait une très bonne amie qui ne pouvait pas avoir d'enfant car très jeune, elle avait eu une hystérectomie. Le couple a essayé d'adopter, mais à chaque fois, il y avait un problème et ils étaient au bord du divorce. À l'époque, j'ai trouvé ça très triste qu'un couple puisse se séparer parce qu'il n'arrive pas à avoir des enfants. Et j'ai dit à ma mère, un jour, j'aimerais être une mère porteuse. Des années plus tard, j'ai vu une annonce dans le journal, un couple qui cherchait une mère porteuse et j'ai appelé. On s'est rencontrés, on s'est bien entendus, on est allé chez le médecin et ça a commencé comme ça. Ma mère était vraiment contre. Beaucoup de mes amis m'ont dit que ce n'était pas bien de faire ça. Je suis en bonne santé, je suis fertile, je peux porter un enfant, donc pourquoi ne pas le faire pour quelqu'un? Ce n'est pas à moi de juger.
Clinique Medfem dans la banlieue nord de Johannesburg. Il s'agit de la plus importante clinique du pays à offrir aux couples stériles le recours à la gestation pour autrui, également appelée GPA. Annelise Tridum est facilitatrice. Sur les murs de son bureau, des dizaines de photos de nouveau-nés et des cartes de remerciement. C'est elle qui accueille les parents et s'occupe de leur trouver une mère porteuse. Dans certains cas, cela peut prendre moins d'un mois. Ce qui est important, explique-t-elle, c'est de trouver la bonne mère porteuse pour chaque couple et de bien définir les règles dès le départ.
Beaucoup de parents qui viennent ici ont traversé des périodes très difficiles. Certains ont perdu tout espoir d'avoir un jour un enfant. Donc au départ, tout le monde est très excité et les futurs parents font souvent beaucoup de promesses. Par exemple, ils promettent à la mère porteuse de lui payer ses études, de lui payer ses vacances. Ou alors ils peuvent devenir complètement hystériques et appeler la mère porteuse toutes les 5 minutes pour voir comment ça va. Récemment, j'ai eu des parents qui refusaient que la mère porteuse puisse avoir une copie de l'échographie alors que celle-ci en avait très envie. C'est tout de même elle qui porte le bébé. Donc il faut vraiment établir des règles pour s'assurer que les parents ne puissent pas tirer profit de la mère porteuse et vice-versa. Il faut également être certain que la mère porteuse ne fait pas ça pour de l'argent, par exemple, car c'est illégal.
Aujourd'hui, il existe environ une douzaine de cliniques dans le pays à proposer la gestation pour autrui. Il y a également quelques associations d'information pour les futurs parents. L'une d'elles a été créée par Robin Friedman après un long parcours médical pour avoir un enfant.
Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à chercher une mère porteuse, c'était rare en Afrique du Sud. Je me sentais vraiment seule, je ne savais pas où obtenir des informations et les médecins n'avaient pas beaucoup d'expérience. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi, à ma famille, à mes amis. Et un jour, dans le cabinet d'avocat pour lequel je travaillais, une assistante est venue me voir et elle m'a dit que sa fille serait prête à faire ça pour moi. J'étais très enthousiaste et on a tout de suite commencé les traitements. Malheureusement, ça a été échec sur échec. Nous avons essayé avec une deuxième mère porteuse. C'était beaucoup plus difficile émotionnellement parce que la première jeune femme, je la connaissais un peu, mais la deuxième, c'était une inconnue qui allait porter notre enfant.
Nouvel échec, Robin et son mari abandonnent et adoptent deux petites filles et puis finalement décident d'essayer une dernière fois.
À la troisième tentative, ça a été incroyable. Il y avait un véritable lien avec la mère porteuse. Je sentais qu'elle pourrait s'intégrer à notre famille, que je pouvais lui faire confiance. Elle est tout de suite tombée enceinte et elle a donné naissance à notre fils. Ça a été un cadeau incroyable, la plus grande joie de ma vie.
Aujourd'hui, la grande majorité des couples qui cherchent une mère porteuse passent par des cliniques. Les mères porteuses sont soumises à une stricte évaluation avant d'être recrutées. Motivation, indépendance financière, stabilité psychologique, elles doivent impérativement avoir au moins un enfant. Personne ne sait vraiment combien de couples ont recours chaque année à la GPA. Il n'y a pas de statistiques, la procédure se fait en toute confidentialité et le sujet reste encore un peu tabou. Notamment parmi la communauté noire, explique Mandy Rodriguez, psychologue à la clinique Medfem. Mais elle est catégorique, de plus en plus de patients y ont recours. Des couples hétérosexuels, mais aussi des couples homosexuels qui choisissent la GPA plutôt que l'adoption.
Vous savez, adopter en Afrique du Sud n'est pas si facile. Vous allez devoir adopter un enfant qui n'est pas de votre couleur. La gestation pour autrui propose donc une autre option, avoir un enfant de sa propre culture. Les parents estiment également qu'ils ont plus de contrôle avec la gestation pour autrui qu'avec l'adoption. Tout au long de la grossesse, ils sont en contact avec la mère porteuse, ils savent ce qu'elle fait, ils peuvent être présents à la naissance. Ils se disent que c'est peut-être mieux pour l'enfant.
Aujourd'hui, même si le recours à la gestation pour autrui a été simplifié, il n'en reste pas moins très encadré. Une loi datant de 2010 détaille les conditions, la procédure, pour éviter notamment toute commercialisation de la maternité. Pas de transaction commerciale, ovocyte ou sperme d'un des parents doit être impérativement utilisé et ces derniers doivent être domiciliés dans le pays. C'est un juge de la haute cour qui donne le feu vert après examen du dossier. GPA, mariage gay, droit à l'adoption pour les homosexuels. L'Afrique du Sud n'est une démocratie que depuis 22 ans, mais ses habitants rappellent avec fierté qu'ils ont les lois les plus avancées du continent africain.
Au Canada, les règles varient d'une province à l'autre. Au Québec, la mère biologique reste la mère de l'enfant né par GPA, mais l'adoption est depuis peu possible pour les parents d'intention. En Alberta, Terre-Neuve, au Labrador et en Nouvelle-Écosse, la filiation avec les parents d'intention est établie s'ils obtiennent le consentement et la renonciation de la mère porteuse. Enfin, en Ontario, Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, les tribunaux jugent au cas par cas en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tous les cas, les mères porteuses ne peuvent pas être rémunérées. C'est donc un système altruiste dont l'encadrement varie d'une province canadienne à l'autre. Cela convient à certains parents infertiles, mais d'autres se tournent vers les États-Unis, où la GPA coûte cher, mais où les droits des parents d'intention sont renforcés. Le reportage de Manon Globinski de Radio-Canada.
The Secret Princess, Chapter 1. Once upon a time, there was a beautiful young girl named Chantal.
C'est un conte pour une enfant encore à naître. Michael Serva a écrit et enregistré La princesse secrète, dont l'héroïne s'appelle Chantel, comme la mère porteuse qui attend son enfant. Elle vit à 9000 km de chez lui, elle à Victoria en Colombie-Britannique, lui en Espagne.
Chantal was secretly learning to be a princess.
Les enregistrements permettent à Chantel de faire entendre au fœtus la voix de son père en attendant que Michael et Jordi, son mari, soient à Victoria dans quelques semaines pour assister à la naissance de leur fille.
Allô, allô?
Je vous entends.
Bon, alors je vous rejoins. Où exactement?
Je suis à Barcelone.
De Barcelone à Victoria, il faut compter 15 heures d'avion, voire plus. Mais le jeune couple a tellement hâte.
On vient de peindre la chambre, donc on vient de finir de peindre la chambre le week-end dernier. Et c'est pas mal de trucs à préparer. C'est la chambre, c'est le lit, c'est tout le processus légal. Donc on a un avocat à Victoria qui va préparer tous les papiers qu'il nous faut pour ramener notre enfant en Espagne.
Michael et Jordi estiment que parce qu'ils sont un couple homosexuel en Europe, la GPA était leur seul choix pour fonder une famille. Ils ont envisagé chercher une mère porteuse au Mexique, ce qui est moins sûr, aux États-Unis, ce qui est plus cher, avant de décider de le faire au Canada.
La GPA au Canada et la GPA aux États-Unis sont très différentes. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est un processus un petit peu plus transactionnel où il y a de l'argent qui est donné à la mère porteuse pour avoir le bébé. Au Canada, c'est interdit de payer la mère porteuse. Donc, elle le fait vraiment pour aider le couple.
On appelle ça la gestation altruiste. Les mères porteuses n'ont pas de lien génétique à l'embryon et ne se font rembourser que les dépenses liées à la grossesse.
Le processus en lui-même, il est pas compliqué. En gros, ce qu'on a fait, c'est on a recherché sur Google, on a trouvé une agence qui avait des profils de mères porteuses.
Parfois, il faut des mois pour trouver une mère porteuse. Michael et Jordi n'ont mis qu'une semaine. Puis, il y a eu un voyage au Canada pour la fécondation d'ovules provenant de donneuses qui, elles non plus, ne peuvent être rémunérées. Dans la salle d'opération de la clinique de fertilité OVO à Montréal, on procède justement à un prélèvement d'ovules, une procédure préliminaire à la GPA. La clinique se spécialise en traitement de fertilité, mais fait peu de GPA, 10 par année au plus. La maternité de substitution est plus compliquée au Québec que dans d'autres provinces canadiennes parce que le contrat avec la mère porteuse n'est pas reconnu légalement. Et donc, au final, elle pourrait décider de garder l'enfant même s'il n'est pas d'elle génétiquement. La directrice médicale de la clinique, la docteure Coralie Beauchamp, souligne que le gouvernement du Québec a donné le signal qu'il veut changer les choses.
Il faut un peu arrêter de voir la gestation pour autrui comme quelque chose qui est underground ou qui n'existe pas, mais en fait, elle existe. Elle est là. C'est un traitement. Puis je pense que justement, comme tous les traitements médicaux, ça devrait être encadré, il devrait avoir des règles qui vont faire en sorte que ça va protéger les mères porteuses et ça va aussi nous aider, nous, en tant que cliniciens.
Et la reconnaissance de l'enfant pose aussi problème.
Certains couples ne désirent pas avoir une mère porteuse qui va accoucher au Québec parce que justement, au Québec, ce n'est que par voie d'adoption. Alors, il y en a qui vont se tourner vers l'Ontario, vers la Colombie-Britannique, où à ce moment-là, il peut avoir une déclaration de parentage. Et c'est les parents biologiques, donc les parents d'intention, qui vont être marqués sur le certificat de naissance et non pas la mère porteuse.
Dans un kilomètre, tournez à gauche sur Elgin Street West.
Nous nous rendons donc à Cobourg, en Ontario, où s'est établie Canadian Fertility Consulting, une des plus grosses agences qui coordonne la GPA pour des parents infertiles et qui compte de 35 à 40 % d'étrangers parmi ses clients. L'agence existe depuis 2007. Brianne Willoughby-Brown est la directrice marketing.
De leur désir d'avoir un enfant jusqu'à ce qu'il soit dans leurs bras, on s'occupe de tout.
Passer par une agence n'est pas obligatoire. Sur Internet, on ne compte plus les forums où les parents d'intention et les mères porteuses s'annoncent. Mais Mme Willoughby-Brown fait une mise en garde.
C'est possible de le faire seul sur Internet, mais c'est un processus qui a tellement de facettes que c'est plus facile avec une agence comme la nôtre. Ce serait vraiment horrible, vous savez, de dépenser 100 000 $ et que ce soit un échec.
Les services d'une agence coûtent un peu plus de 12 500 $ canadiens, environ 8 600 euros. Et en plus, il y a les frais juridiques, les frais hospitaliers et les dépenses de la mère porteuse remboursées jusqu'à 20 000 $ En tout, ça peut coûter entre 60 et 80 000 $canadiens, presque 50 000 euros, pour avoir un enfant au Canada. Si la dépense est grande au Canada, la GPA est encore plus onéreuse aux États-Unis, où les mères porteuses sont payées 25 000 $ et plus, sans compter les autres frais.
Allô?
Oui, allô?
Oui, je vous entends, mais des fois, ça coupe.
Et pourtant, c'est l'option qu'a retenue le Québécois Georges Sylvestre, gynécologue obstétricien, conjoint à son bureau à New York.
On n'achète pas un enfant. C'est pas un enfant qu'on achète. Donc, de mettre une étiquette comme quoi c'est commercial, je pense que c'est un peu injustifié. C'est des dames qui m'ont fait une faveur, une bonne faveur, puis qui ont eu une certaine somme d'argent qui, comme je vous expliquais, revient à quoi? Quelques dollars de l'heure. Dans tout le processus de la GPA, les frais de la mère porteuse C'est une petite portion de le coût total, du coût total d'une GPA qui coûte facilement 125 ou 150 000 $ de nos jours.
Selon lui, rembourser les frais des mères porteuses au Canada, payer la mère porteuse aux États-Unis, c'est du pareil au même, mais le système américain est meilleur.
Dans le contexte, si une femme porteuse changeait d'idée de garder l'enfant, elle ne gagnerait pas.
Et ça lui a permis d'avoir deux beaux garçons de 6 et 4 ans avec son conjoint.
J'ai même accouché mon premier enfant, ce qui est absolument fantastique. L'obstétricienne me dit, écoute, je sais que tu es obstétricien avec plus d'expérience que moi. Peut-être, si ça te tente, tu peux accoucher ton propre enfant. J'ai dit oui.
Direction la Belgique à présent, où la législation est tout simplement inexistante. Pas de loi pour définir les contours de la GPA, donc certains hôpitaux la pratiquent depuis une vingtaine d'années en s'appuyant sur ce vide juridique. Chaque établissement a bricolé ses procédures en s'inspirant des lois existantes, la loi sur la PMA, la procréation médicalement assistée, et la loi sur l'adoption. En gros, on se base sur la loi PMA pour concevoir l'enfant. À partir d'un ovocyte de la mère d'intention ainsi que du sperme du père d'intention, on conçoit un embryon qui est logé dans l'utérus d'une mère porteuse. Celle-ci n'a donc aucun lien génétique direct avec l'enfant. C'est l'une des conditions sine qua non pour qu'une GPA ait lieu en Belgique. Trois hôpitaux pratiquent la GPA, à Liège et Bruxelles, elle est réservée aux couples hétérosexuels, à Gand, on accepte aussi les couples homosexuels. Illustration de ce flou avec l'histoire de ce couple hétérosexuel qui essayait en vain d'avoir un enfant depuis plus de 10 ans et qui a fini par recourir à la GPA. C'est la sœur de la mère d'intention qui a porté l'enfant. Pour la RTBF, Odile Lehert a suivi cette famille depuis la grossesse jusqu'à la maternité et la naissance du bébé. Le père est reconnu comme étant le vrai père depuis la grossesse, mais la mère, elle, doit adopter l'enfant. La procédure est en cours, c'est un témoignage anonyme car le couple est en pleine procédure d'adoption et a peur que ce témoignage n'influence le juge.
C'est l'heure des visites à la maternité. Camille vient d'accoucher et pourtant...
C'est pas mon enfant, c'est mon neveu.
Léon n'est pas son fils, pourtant c'est bien elle qui l'a porté pendant 9 mois. Léon est en fait le fils de sa sœur Justine.
Il est enfin là. C'est indescriptible. Ah.
Une fois n'est pas coutume, ce sont donc deux sœurs qui partagent la chambre 508.
Donc c'est marrant parce que parfois il y a des sages-femmes ou des infirmières qui rentrent et ils ne sont pas toujours forcément au courant de la situation. Tiens non, c'est ma sœur et mère porteuse.
Et l'accouchement s'est bien passé ?
Alors, c'était pas évident parce que ça, c'était vraiment dur de la voir souffrir comme ça. J'aurais voulu souffrir à sa place parce que c'était pour moi qu'elle souffrait. Et voir quelqu'un d'autre souffrir pour soi, c'est très très dur. On est impuissant et c'est vraiment pas facile, quoi.
Camille a consacré 9 mois de sa vie au désir d'enfant de sa sœur. Plus même. L'aventure a commencé il y a près de 2 ans. Ce jour-là, Justine et son mari poussent la porte de l'hôpital Saint-Pierre, en plein cœur de Bruxelles.
Bonjour, donc moi je suis le docteur Candice Autin, je suis gynécologue obstétricienne de formation et ici vous êtes au centre de procréation médicalement assistée du CHU Saint-Pierre.
Une équipe y accueille les couples qui rêvent d'avoir un enfant.
Je vois que vous venez dans le cadre d'une demande de gestation pour autrui, ben, expliquez-moi un petit peu quelle est votre histoire.
Moi j'ai 38 ans.
Et vous essayez d'avoir un enfant depuis ?
Depuis 10 ans presque, ça fait 10 ans de traitement hormonaux, très lourd, oui, très très lourd. Lourd psychologiquement et lourd physiquement aussi.
Donc aujourd'hui vous êtes tous les deux, mais quand vous reviendrez, vous devrez revenir avec votre mère porteuse et son conjoint si elle en a.
Car c'est comme ça que ça fonctionne. Un couple qui se lance dans une gestation pour autrui doit avoir trouvé lui-même sa mère porteuse sans qu'il y ait de transactions financières. Toute démarche commerciale étant strictement interdite.
Il y a à peu près 5 ans, ma sœur m'avait parlé de mère porteuse et qu'elle serait éventuellement prête à le faire. Moi, dans ma tête, j'étais pas encore tout à fait prête.
Alors, on a 50% de sœurs, 70% de liens familiaux. L'immense majorité des femmes a envie de porter son bébé et de le mettre au monde et non pas de le faire porter par quelqu'un d'autre. C'est quand elles n'ont pas d'autre choix qu'elle recourt à de telles procédures.
Avoir un enfant moi-même et le porter moi-même, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Accoucher moi-même aussi, même si ça fait très mal, etc. Je pense que c'est un très beau moment aussi. Mais j'y ai pas accès. Donc ça, je trouve que le fait d'avoir accès comme ça maintenant par ma sœur, par procuration, c'est génial aussi. Donc j'ai fait mon deuil maintenant.
Justine finira par accepter le cadeau proposé par sa sœur.
Et je trouve que c'est un magnifique cadeau de ma sœur, de la vie. Et maintenant, voilà, je vais en profiter, quoi.
C'est le début d'un long parcours, de nombreux filtres psychologiques, médicaux.
Voilà, il y a des garde-fous. Les entretiens chez le spécialiste de la fertilité permettent aussi de vérifier toutes les conditions médicales. Donc la mère porteuse, bien sûr, elle ne doit pas avoir un état de santé qui fait que la grossesse représenterait un risque important pour elle. Elle doit avoir eu des grossesses qui se sont déroulées normalement, des accouchements qui se sont déroulés normalement. Alors il y a une série d'autres critères, elle doit avoir moins de 40 ans, elle doit déjà être mère pour avoir déjà expérimenté la maternité. Ça s'étale sur 3 à 6 mois.
Place ensuite à la fécondation in vitro.
Donc les ovocytes, ils vont être prélevés en salle d'opération, ils vont être mis au contact des spermatozoïdes par nos embryologistes dans le laboratoire. Et tous les jours, les embryologistes regardent le développement des embryons pour, au bout de 5 jours, choisir celui qui a le plus de chances de s'accrocher. Et c'est là que notre mère porteuse viendra pour le transfert d'embryon. Donc on lui replacera l'embryon. Et là, il s'est accroché.
Et il est toujours là maintenant. 5 mois après, il est toujours là maintenant. Il mesure 30 cm et il pèse 700 grammes.
700 grammes déjà.
Ah oui, là c'est bien parti.
À 5 mois de grossesse, le ventre de Camille s'arrondit.
Beaucoup de gens me posent la question, c'est toujours la question qui revient. Est-ce que tu vas savoir donner l'enfant? Et ça, je suis à 100% sûre. Parce que moi, j'ai fait le déclic dès le début. C'est l'enfant de ma sœur que je porte. C'est tout.
4 mois plus tard, Léon voyait le jour. Et Camille l'assure, la distance s'est tout naturellement installée avec ce bébé qu'elle venait pourtant de mettre au monde.
Ça se met naturellement. Parce que j'ai vraiment fait le déclic dès le début.
Pas de pincement au cœur.
Non.
Le déclic, manifestement, ici, dans ce cas-ci, s'est fait pendant la grossesse.
C'est ce qu'on travaille, évidemment, en entretien avant. C'est-à-dire qu'elles ont bien intégré le fait qu'elles allaient porter l'enfant d'un couple qu'elles ont envie d'aider.
Vous n'avez jamais eu le cas d'une mère porteuse qui refusait de donner l'enfant?
Jamais, jamais.
Seuls 22 bébés sont nés de mères porteuses depuis 19 ans à l'hôpital Saint-Pierre. Une pratique qui a donc lieu, mais qui reste assez anecdotique.
Je suis responsable du centre depuis 2007 et je ne vois pas une augmentation du nombre de prises en charge.
Étant donné que c'est à ce point exceptionnel, pourquoi est-ce qu'il faudrait légiférer?
Alors je pense que l'absence de cadre juridique spécifique est malgré tout une source d'anxiété pour les différents intervenants, tant le couple d'intention que la mère porteuse, parce qu'ils ne sont pas protégés et donc pas reconnus aux yeux de la loi.
Sur l'acte de naissance, la maman, c'est ma sœur, pas la maman biologique, on va dire. Moi, je suis rien pour l'enfant. Et je suis rien pour l'enfant tant que je n'ai pas adopté. Je me sens maman, c'est pas ça, mais c'est bien quand même d'être légalement aussi la maman pour plein de choses. Voilà, des droits de succession.
La situation actuelle, c'est que le père d'intention reconnaît l'enfant pendant la grossesse. Pour la filiation paternelle, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en Belgique, toute femme qui accouche est la mère légale de l'enfant. Donc la mère porteuse est la mère légale. Elle renonce à ses droits. Et la mère d'intention va effectivement devoir adopter l'enfant de son conjoint. Avec donc toute la lourdeur de la procédure d'adoption, les séances d'information collective, individuelle, l'agrément par le juge, les visites de l'assistante sociale, donc ça prend à peu près 2 ans.
La gestation pour autrui, une pratique ni interdite, ni vraiment légale, est très confidentielle donc en Belgique, mais qui permet à quelques couples chaque année de devenir parents.
En Suisse, la situation juridique est simple. La GPA est interdite. Le tribunal fédéral, l'instance suprême de la Confédération, a statué sur les liens de filiation entre parents et enfants issus de la GPA. La première fois, c'était en mai 2015, la Cour a refusé la paternité à 2 hommes établis dans le canton de Saint-Gall. Deuxième décision, en septembre 2015, elle concerne un couple établi dans le canton d'Argovie. La décision est ferme, on ne peut pas inscrire dans le registre d'état civil suisse des enfants issus de la GPA. La reconnaissance du certificat de naissance californien qui établit ce lien n'est donc pas valable. Ceci dit, les parents qui ont recours à une mère porteuse à l'étranger ne risquent aucune sanction pour ces démarches une fois de retour en Suisse. Pour la RTS, Sophie Iselin a rencontré un couple d'homosexuels qui partagent leur vie entre la Suisse et l'Italie. L'adoption plénière leur étant interdite dans les deux pays, ils n'ont pas d'autre choix que la GPA pour avoir un enfant. C'est aux États-Unis qu'ils sont allés trouver la mère porteuse, illustration d'une situation juridique compliquée.
Bonjour.
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 Sophie.
Merci. Enchanté. Ça va?
Ciao. My French is not good.
I know, it's okay.
Bienvenue à Milan, dans le nouvel appartement de Salvatore Emanuele, un couple de trentenaires qui, depuis plus d'une année, attend l'arrivée d'un enfant.
Donc on a acheté cet appartement ensemble.
Donc ici, il y aura la chambre des enfants. Pour l'instant, c'est un magasin.
Voilà, il y a des cartons pour l'instant.
Stockés. Et donc, moi, je rêve d'un jour où il y aura des enfants avec des vélos autour de la maison. Alors, en revanche, là, le parquet, ce ne sera pas aussi beau, mais...
Le couple partage sa vie entre la Suisse et l'Italie, où chacun travaille et possède son propre appartement.
Nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Petit à petit, quand notre relation s'est consolidée, c'est lui qui est arrivé avec ses vœux. Au début, moi, je n'étais pas très convaincu. Je ne sais pas, moi j'avais plutôt à l'esprit éventuellement d'aider quelqu'un déjà, je ne sais pas, adolescent.
Et puis après, vous avez
dit... Et puis après, on a commencé à fréquenter les familles arc-en-ciel, ici à Milan. Et puis on espère devenir parents.
Mais en Italie, par exemple, on n'a pas le droit d'adopter non plus quand on a un couple homosexuel aussi.
Non. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles... On doit choisir la GPA parce que les couples homosexuels, en Suisse non plus.
Donc c'est presque plus facile de faire une GPA qu'adopter actuellement.
Oui. Non, c'est la seule possibilité. Parce que l'adoption, c'est impossible.
Impossible d'adopter un enfant en Suisse ou en Italie pour ce couple homosexuel. Pour avoir un enfant, il faut passer par la GPA. Et si Salvatore est prêt à tout quitter en Suisse après l'arrivée de l'enfant, c'est parce que l'Italie vient de franchir un cap important sur le plan juridique.
Donc on ne pourra pas arriver avec un certificat de naissance avec deux pères en Suisse. En Italie, en revanche, et ça c'est une nouveauté, c'est tout récent, la Cour des cassations vient de reconnaître un acte de naissance des deux mères qui avaient eu un enfant en Espagne.
Donc ça va faire jurisprudence, ça?
Oui, ouais, certainement, c'est la Cour des cassations, donc c'est la Cour suprême italienne. Alors on devra batailler un peu, mais il y a certainement un peu plus d'espoir qu'en Suisse, à ces moments. Après, les enfants seront américains, ou l'enfant. Si tout va mal, on part, on va aux États-Unis. Heureusement, on a reçu une bonne éducation les deux, et même si on doit tout quitter, il y aura la possibilité de se refaire une vie. Je veux dire, les deux, on parle anglais.
Mais si tout va mal, ça veut dire si cette jurisprudence...
Si cette jurisprudence, si on devait avoir des problèmes quelconques, on peut partir.
Car c'est aux États-Unis que le couple est parti il y a plus d'une année pour se lancer dans l'aventure de la gestation pour autrui. Une aventure plus compliquée que prévu. Salvatore et Manuel ont connu déjà 3 échecs de grossesse. Des grossesses effectuées avec toujours la même mère porteuse.
Alors, la photo... Donc la photo a été prise le jour où on s'est rencontrés. Donc il y a Cora, notre agente, Melissa et moi.
He was showing me a picture with Melissa and Cora.
Io non ho le foto, non ho qua le foto di quando siamo andati in California. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 6 embryons qu'on a congelés. Et malheureusement, c'est le problème, c'est que Mélissa, donc, qui est la mère porteuse, a fait 3 tentatives et puis malheureusement ne peut plus continuer à le faire.
Parce que ça a duré presque une année,
c'est
du
une
coup.
Année. Et donc maintenant, elle a d'autres projets dans sa vie. Et voilà.
Cette semaine, les deux hommes ont fait une nouvelle tentative. En Californie, la clinique a fertilisé de nouveaux ovules avec le sperme de chacun d'entre eux.
Avant-hier, ils ont extrait les ovules.
et ils ont fertilisé les ovules pour créer des embryons de l'un et de l'autre.
Ils sont en laboratoire, hein ?
En laboratoire, et donc dans cette semaine, les embryons sont congelés en attendant de trouver une nouvelle mère porteuse.
La clinique, elle vous garantit un résultat ? C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de bébé...
Oui, nous, on a choisi justement un programme qui est jusqu'à ce que, voilà, on n'a pas un bébé, on continue.
Et c'est donc à Milan que le bébé sera accueilli. Milan qui abrite déjà plusieurs familles monoparentales.
Dans ce quartier même, il y a des couples qui espèrent avoir des enfants, il y a des couples avec des enfants. On se retrouve dans un cadre de normalité. Voilà, donc on n'est pas des extraterrestres. La Suisse est beaucoup plus pragmatique. Probablement, les problèmes ne sont pas encore arrivés. Là, nous, l'Italie a été très en retard sur les droits des personnes homosexuelles. Là, c'était la droite qui nous a donné cette visibilité. Ils ont pointé du doigt la chose et puis ils nous ont donné la possibilité de nous montrer finalement. Mm-hmm. Et puis nous, on n'a pas eu honte de nous montrer.
Et puis l'autre chose vraie est que la partie importante de la société, c'est les mecs.
On termine ce tour d'horizon en France où, comme en Suisse, la GPA est interdite. Une interdiction signifiée dans la loi de bioéthique qui date de 1994. Plusieurs milliers de couples hétérosexuels et homosexuels se sont donc déjà tournés vers des pays étrangers pour faire une GPA. Le problème ensuite, c'est de revenir en France et de faire obtenir des papiers aux enfants. Fin janvier 2013, en plein débat sur le mariage pour tous, Christiane Taubira, ministre de la Justice, a fait rédiger une circulaire qui permet aux enfants nés par GPA d'obtenir la nationalité française. Reste le problème de la filiation. Dominique et Sylvie Menson se battent depuis maintenant 16 ans pour que l'État français reconnaisse qu'ils sont officiellement les parents de leur fille jumelle née d'une GPA aux États-Unis. Mais rien n'y fait, et ce, malgré une décision en leur faveur de la Cour européenne des droits de l'homme il y a 2 ans. Ils ont créé une association qui regroupe 1 millier de couples et 700 enfants.
C'est une caisse ?
C'est une caisse, ça c'est un gros dossier. Et j'en ai encore là. Ah. Ça c'est vraiment les vieux de vieux. Donc je les ressors rarement ceux-là. Parce qu'en plus ça fait mal, même 15 ans après ça fait mal.
Dans la cave transformée en bureau de Sylvie et Dominique Menson, le dossier GPA occupe plusieurs cartons. Le couple en est à sa 13e procédure judiciaire depuis la naissance de leur fille, le 25 octobre 2000, aux États-Unis.
Ça, c'est la transcription, c'est l'état civil français. Il y a tout l'historique des actions de justice. Vous voyez, donc il y a l'acte de naissance américain, qui est donc transcrit dans les registres français, donc traduit, où on dit donc les prénoms, le lieu de naissance, la date. Et puis après, vous avez acte annulé, arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu le 18 mars 2010, au terme duquel il ne sera plus délivré à l'avenir ni copie ni extrait. Et là, entre-temps, l'annulation a été annulée.
Et donc aujourd'hui, après 16 ans de combat, est-ce que la filiation est reconnue ? Entre vous et vos filles, par l'État français ?
À l'instant où on parle, oui. C'est un vrai épisode, parce que là, je vous ai montré l'extrait d'acte de naissance, et vous avez vu que la dernière mention, c'est décembre 2015, où donc il y a le juge des référés qui annule l'annulation. Entre-temps, la cour d'appel de Rennes a déclaré le 27 juin dernier que le juge n'était pas compétent, et n'a pas expliqué évidemment pourquoi, ça serait bien trop facile. Et donc, l'exploitation du registre français pour nos filles est suspendue. Ça veut dire que je ne peux pas l'obtenir à nouveau. Elles sont redevenues fantômes, donc on est parti en cour de cassation pour casser cette suspension d'exploitation.
Tu aurais là. Tu peux venir.
Regardez.
Bah oui.
Elles sont mignonnes.
Elles avaient quel âge là?
Ah non.
avec leur petite couette sur le haut de la tête. Trop mignonne.
Maintenant, je ne risquerai plus de leur mettre les couettes.
Tu fais plus de couettes ?
Non.
Comment tu vis le combat de tes parents depuis maintenant 16 ans ?
Disons que c'est plus leur combat que le mien, parce que déjà, ils me tiennent un peu à l'écart, parce que ça, c'est une question surtout de paperasse, à ce que j'ai compris. Et, enfin, ça ne m'intéresse pas. C'est un truc d'adulte et j'ai 16 ans, donc dans une famille où alors, les enfants ne sont pas nés par GPA, c'est pas les gosses qui s'occupent de leurs papiers, donc bah voilà.
Tu aurais la raison de dire qu'on s'en occupe tant qu'on est en vie, mais si on décédait... Non mais c'est vrai, malheureusement c'est arrivé dans l'association des couples dont l'un des deux décède, et ils ont eu toutes les peines du monde pour les successions, d'ailleurs ils n'y sont pas arrivés. Là, il y a un couple qui divorce, le mari a menacé de lui enlever les enfants, il a dit « tu les verras plus, de toute façon, ils ne sont pas à toi ». Voilà, donc, bien sûr que pour certains, pour les actes de la vie quotidienne, c'est beaucoup de tracasserie, c'est très pénible, mais les gros problèmes, c'est en matière de succession, en matière de divorce, et au-delà de tout ça, du juridique, il y a aussi le symbolique derrière. Parce que la reconnaissance des enfants... C'est pas juste des papiers. C'est la société qui les reconnaît à part entière. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour leur avenir.
Si le cas des Menson n'est toujours pas réglé, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme a, elle, fait un peu avancer certains dossiers, même si la situation reste bien compliquée.
Bonjour, c'est Joanie.
Voilà, bonjour, c'est Laurence.
Laurence Brunet est juriste spécialiste de la GPA en France.
Venez.
Pour les familles homoparentales, dans le cas où un des papas a donné son sperme et eu sur l'acte de naissance, il y a le nom de celle qui a accouché, eh bien, c'est réglé. Cette transcription est acquise. Évidemment, reste complètement incertain la question du rattachement de l'enfant à son deuxième père, donc le père d'intention, celui qui n'a pas donné son sperme, qui lui, on ne sait pas encore comment il va faire établir sa parenté. Il va falloir qu'il passe par une adoption. Et pour l'instant, il y a eu quelques cas et ça a été refusé par les tribunaux. Seconde situation, c'est le cas de l'affaire Menson ou d'autres couples, c'est-à-dire d'un couple hétérosexuel qui va dans un pays et qui revient avec un acte de naissance sur lequel figure le nom des parents qui ont tous les deux voulu la naissance de cet enfant, qui vont l'élever, donc le père d'intention et la mère d'intention. Et là, pour l'instant, on a de la part des juridictions inférieure en France, une situation très particulière puisque les juges du fond ont décidé de couper en quelque sorte l'acte de naissance et de ne transcrire que la filiation paternelle parce que c'est la seule qui est en quelque sorte basée sur la filiation biologique et qu'on se réfère à une interprétation biologisante des arrêts de la Cour européenne. Donc dans ce cas-là, ce qui paraît un peu quand même curieux du point de vue du droit de l'enfant, il y a un père et pas de mère.
Et cela, c'est inenvisageable pour les Menson. Ils ont saisi la Cour de cassation. Depuis la naissance de leur fille, le couple a déjà dépensé 160 000 euros de frais juridiques.
La Cour européenne, elle a donné quoi gentiment pour nos frais d'avocat? 15 000
15 000, oui. Ouais. Et puis aussi, toi aussi, j'imagine, mais un des plus gros de nos traumatismes, ça a été qu'on n'a pas pu avoir un troisième enfant. On a essayé une fois, mais on n'a pas donné suite, parce qu'on était pourchassés de partout. La Cour de cassation, enfin, tout nous tombait dessus.
Oui.
Parce qu'on a... était parti pour avoir un troisième enfant.
Bien sûr, oui. On avait encore une dizaine d'embryons congelés.
Et on les a toujours.
Oui, on les a toujours. On n'arrive pas à se résoudre à les détruire ou à les donner. C'est difficile. Ouais, les 160 000 euros, on aurait pu en faire combien de GPA? Plusieurs, en tout cas.
On verra.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Avec nous en studio, Daniel Borillo, chercheur associé au CNRS et enseignant à Paris 10 Nanterre, spécialiste du droit comparé de la bioéthique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vient d'écouter donc cette série de reportages et on voit bien que, quelle que soit la législation, la GPA pose un problème à nos sociétés. Pour quelle raison, d'après vous ?
Ça pose un problème et le reportage est très intéressant parce que montre la complexité de la question. Et parfois, dans les débats publics, on s'amplifie trop. Ça pose un problème parce qu'à la fois, ça touche à l'identité, ça touche à la filiation, ça touche au corps, et ça touche effectivement à des choses qui sont intimes, à des choses qui sont profondes qui sont de l'ordre de la vie privée et familiale. Et je crois que, justement, cette complexité mérite un débat complexe et mérite aussi une réflexion juridique et éthique qui soit à la hauteur de tous ces enjeux, parce que derrière tout ça, et vous le montrez bien dans le reportage, il y a la vie des gens.
Mais en Europe, en France en particulier, l'hostilité à la GPA s'appuie notamment sur des craintes de marchandisation du corps des mères porteuses. Craintes justifiées quand on voit le business qui existe en Amérique du Nord tel qu'on l'a vu dans le reportage.
Bon, la marchandisation, c'est déjà trop connoté parce que si vous voulez, par exemple, en Californie, où la GPA n'est pas gratuite, donc il n'y a pas nécessairement la marchandisation parce qu'il y a nécessairement un contrôle du juge, donc il faut qu'il y ait un agrément et il faut qu'il y ait également un contrôle légal des cliniques, et ce sont des femmes qui sont très bien rémunérées, et il ne s'agit pas des femmes qui sont exploitées. Donc en fait, plutôt que de la marchandisation, je dirais qu'il y a deux modèles, et dans les reportages, on les voit bien. Donc un modèle qui est un modèle altruiste, ou un modèle qu'on pourrait dire dans de la GPA gratuite, comme c'est le cas du Royaume-Uni, comme c'est le cas des Pays-Bas, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud, et des modèles qui sont donc d'une GPA qui puisse être rémunérée. Et donc il y a aussi deux réalités sociologiques. Pour les cas de GPA qui sont rémunérés, il y a une plus grande disponibilité, bien évidemment, puisque plus vous allez vers un système altruiste, moins il y a de personnes disponibles à porter un enfant pour le donner à la naissance à une autre famille ou à une autre personne. Et plus vous allez aussi vers un système d'anonymat, plus il est difficile de trouver des ovocytes ou de trouver des donneurs de sperme. Donc là, il y a un compromis à trouver d'un point de vue politique et social. Alors de ce point de vue, je pense qu'on peut placer la question de la GPA à plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau, pour moi, qui est le premier niveau d'un point de vue philosophique et juridique, qui est celui de la libre disposition de soi, la libre disposition de son corps. Et on pourrait prolonger un peu le débat de la GPA par rapport au débat de l'IVG. Vous voyez, c'est un débat qui a eu lieu en France dans les années 70. Et donc tous les débats sur l'interruption volontaire des grossesses s'est placé à la fois sur une question de libre disposition du corps des femmes et également sur une question de santé publique. Qui peut contrôler la manière dans laquelle on produit des enfants d'une manière qui soit, d'un point de vue sanitaire, correcte.
Mais à partir du moment où il peut y avoir, dans les pays qui autorisent la GPA, rémunération de, oui, de la mère porteuse, est-ce qu'on peut vraiment parler de libre disposition du corps quand la femme en question peut essayer juste d'augmenter son niveau de vie, enfin de gagner de l'argent en fait?
Bah, les situations ne sont pas les mêmes en Inde qu'en Californie, ça dépend de pays, en Ukraine par exemple qu'au Canada, vous voyez, donc il y a des réalités qui sont différentes. Tout dépend de la manière dans laquelle on produit un contrat qui soit à la fois protecteur pour les femmes porteuses et également pour les commanditaires, pour la famille qui va demander donc de la GPA pour avoir un enfant. Mais si vous voulez, il y a aussi tout un débat par exemple qui est mené par des anthropologues comme Paola Tabé ou des féministes américaines sur le fait que la GPA va mettre en évidence quelque chose qui avait été occulté pendant très très longtemps, qui est le travail reproductif des femmes. Et donc ce travail reproductif des femmes a été occulté par une forme de domination masculine qui veut que ce travail soit gratuit. Et donc contrairement au débat français, par exemple dans un débat des féministes ou un débat anthropologique, que ce soit en Italie ou aux États-Unis, ces philosophes en fait nous montrent que la GPA pour la première fois va donner la possibilité de montrer que ce travail est un travail qui mérite rémunération. Alors que depuis la nuit des temps, les femmes ont accouché, ont produit des enfants gratuitement pour les hommes. Et donc, vous voyez, il y a un argument très féministe aussi, favorable à la GPA, sur le plan de c'est un travail qui mérite rémunération. Mais aussi, il faut peut-être dépasser la question uniquement contractuelle. Et on peut imaginer une GPA éthique, une GPA qui soit gratuite pour les usagers en fait, du système de santé, une sorte d'agence publique ou un service public de la procréation, dans lequel il y aurait donc un travail rémunéré, à la fois pour les femmes porteuses, pour les donneurs, pour les médecins, vous voyez, pour les assurances, enfin, tous les systèmes de santé seraient rémunérés comme pour la sécurité sociale, et pour les usagers, ça serait pris en charge par la communauté. Et ça, il y a aussi, par exemple, Bertrand Guillard, qui est un philosophe français, il propose une éthique, un service public de la GPA.
Dans tous les cas de figure, à ce moment-là, il faut absolument un encadrement législatif.
Il faut un encadrement, parce qu'en France, le reportage l'a bien montré, et pour pouvoir dissocier la question de la convention de GPA et la possibilité pour ces enfants d'avoir une inscription dans l'état civil, était faite, mais en 16 ans. Ça nous a pris 16 ans pour pouvoir, en fait, inscrire ces enfants à l'état civil français. Vous voyez, donc, pendant toutes ces années, il n'y avait pas de nationalité, il n'y avait pas des droits patrimoniaux, il n'y avait pas de droits successoraux, il n'y avait pas la possibilité d'accéder à la sécurité sociale. Enfin, il y avait un tas de droits qui ne pouvaient pas être établis, et y compris le fait qu'à la majorité, ces filles pouvaient être expulsées du territoire français, faute d'avoir un séjour, régulier. Bon, ça a pris 16 ans, vous voyez, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire les droits doivent être au service des gens. Moi, je comprends que la France soit contre la GPA, et ça, c'est tout à fait une question politique, une décision de société. Mais comme a dit la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Menson et Labassé contre France, une chose, c'est l'interdiction de la GPA, une autre, c'est le fait de interdire ces enfants d'avoir une identité. Une identité par rapport à l'inscription de la filiation paternelle et une identité par rapport à l'inscription à l'état civil et donc avoir également la nationalité française. Mais la question n'est pas tout à fait réglée puisqu'il manque encore la possibilité d'avoir une inscription vis-à-vis de la mère, de la mère d'intention, à l'occurrence de Madame Menson. Moi, je pense qu'il y a un consensus contre la GPA en France qui est dû à une droitisation de questions sociétales en général. Donc, il va de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Je constate que tous les partis politiques, les forces politiques sont contraires à la GPA. Donc, en fait, il y a, à mon avis, un débat à mener, un débat philosophique, un débat démocratique sur des arguments qui, à la fois, tiennent compte de l'intérêt de ses enfants, de l'intérêt de femmes qui peuvent porter les enfants et l'intérêt d'une société à pouvoir organiser un système donc, d'accès à la reproduction et d'accès à la filiation. Mais je pense qu'un droit à la procréation, à l'occurrence à la procréation assistée, demeure encore en matière de GPA à construire.
Daniel Borillo, merci.
Merci.
C'était Regard croisé sur la GPA, une émission proposée par les médias francophones publics, réalisée par Anne Lioro, assistée de Marion Philippe et Zora Ben-Smaili. Mixage Alain Joubert. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception.